À tous, je suis très heureux d'ouvrir la parole de Dieu avec vous. Vous pouvez soit ouvrir une Bible, si vous en avez une. Il y en a quelques-unes qui sont aussi sur le comptoir ici, si vous voulez. Ou sinon, sur les feuillets de ce matin, vous avez aussi le verset qui va être la base un peu de notre explication de la parole de Dieu ce matin. Ça se trouve dans 1 Jean, la première lettre de l'apôtre Jean. Donc vers la fin du Nouveau Testament, de nos Bibles, hein, au chapitre 4. Et un peu contrairement à ce qu'on fait d'habitude, on a des plus grandes portions de l'Écriture et on essaie de creuser tout un chapitre peut-être ou plusieurs versets de l'Écriture. Ici, je vais utiliser ce verset comme un tremplin pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à la croix justement et comment Dieu manifeste son amour à la croix. Comment est-ce qu'il est révélé cet amour à la croix pour nous? Donc le sujet de ce matin, c'est un peu l'amour. Qui ne désire pas l'amour? C'est une question un peu tellement évidente. Regarde 5 minutes au fond de nous-mêmes, on crève de connaître un amour qui est satisfait, qui est profond, qui est véritable. Un pourcentage massif de notre culture essaie de donner une définition de l'amour, de nous encourager à l'amour, ou d'expliquer qu'est-ce que c'est l'amour, ou de communiquer l'amour. Les chants, par exemple. 90% des chants qu'on entend à la radio, par exemple, ça parle d'amour. Les romans, en général, ça parle d'amour. S'il n'y a pas quelque part une relation d'amour dans ça, c'est étrange. Il n'y a que les livres de maths ou de sciences physiques où il y a peu d'amour, d'accord? Notre cœur, il désire connaître l'amour. Et peut-être, et j'espère que si vous êtes là ce matin, c'est que vous désirez connaître l'amour de Dieu. L'amour de l'être le plus grand dans tout l'univers, et hors de l'univers même, puisque c'est lui qui a créé toute chose. Donc le sujet de ce matin est immense, parce qu'il s'agit de comprendre quasiment, presque, la personne même de Dieu, ce qui le caractérise dans toutes ses actions et dans où est son cœur à Dieu. Donc on va pénétrer maintenant dans un lieu saint, un lieu d'accord de réflexion saint. Et je prie que Dieu nous accorde la grâce d'être remplis de respect, pour que nous puissions y marcher sans péché. Et avant de poursuivre plus loin, j'aimerais prier simplement avec vous que Dieu ouvre notre cœur à comprendre la grandeur de son amour. Seigneur, je te prie pour nous tous, pour qui sommes assemblés ce matin. Tu vois les uns les autres, certains qui te connaissent parce que toi tu les as connus parce que toi tu t'es révélé à eux et ils t'aiment parce que toi tu les as aimés. Il y a certains peut-être qui pensent qu'ils t'aiment, mais peut-être la réalité c'est qu'ils ne te connaissent pas et en réalité ils ne t'aiment pas. Et il y en a peut-être d'autres ici qui réalisent bien qu'ils ne te connaissent pas, qu'ils ne t'aiment pas et ils voudraient t'aimer. Et Seigneur, je te prie donc que pour nous tous, chacun là où on en est sur cette réflexion par rapport à ton amour, tu touches nos cœurs, tu fasses une œuvre puissante par ton esprit, par ta parole dans nos vies pour qu'on comprenne cela. Et je te prie donc que tu enlèves toute ténèbre, toute lourdeur dans notre esprit qui nous empêcherait de comprendre, de voir dépeint devant nos yeux à quel point tu nous as aimés en Jésus-Christ, en donnant ton Fils unique, ton Fils bien-aimé, ton Fils chéri à la croix. Pour notre salut, pour le pardon de nos péchés. Et aide-moi, s'il te plaît, Seigneur, à exposer ces choses de la manière la plus digne possible, la plus juste possible, et la plus vraie possible. C'est dans le nom de ton Fils ressuscité que je t'en prie. Amen. Il n'y a pas d'autre moyen de connaître l'amour que de regarder à Dieu. Pas d'autre moyen. Non seulement parce qu'il est la source, c'est lui le créateur, c'est lui le concepteur de tout ce qui existe, autant ce qui est matériel que ce qui est immatériel, donc ce qu'on ressent, les émotions, tout ce qui est moralement vrai et existant, ça vient de Dieu. Et en plus de ça, la Bible affirme avec force que Dieu est amour. Dieu est amour. En d'autres termes, tout ce que Dieu est, tout ce qu'il dit, Tout ce qu'il fait, c'est caractérisé par l'amour. Et Dieu, alors on essaie de réfléchir un petit peu, d'accord ? Dieu est infini, il est parfait. Sinon, il ne serait pas Dieu. Donc pour avoir une compréhension qui s'approche d'une compréhension parfaite, d'une compréhension juste, d'une compréhension réelle de ce que c'est l'amour, mais il nous faut nous approcher de Dieu, il nous faut regarder à Dieu lui-même pour cela. Et une des manifestations, justement, de l'amour de Dieu, c'est qu'il s'est révélé. Il n'est pas resté caché, il n'est pas « Ah, moi je sais ce que c'est l'amour et débrouillez-vous pour comprendre ce que c'est ». Non, il s'est révélé, il s'est montré, si vous voulez. Il a dévoilé qu'est-ce que c'est l'amour, il s'est fait connaître lui-même. Et nous lisons donc dans la parole infaillible de Dieu, ce que Dieu a dit lui-même au travers de l'apôtre Jean, donc dans 1 Jean chapitre 4, versets 8 à 10, « Car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. » Ok, il y a quelques termes un petit peu compliqués, on va essayer d'expliquer ça tout au long de cette prédication. Mais d'abord, la première idée, Dieu est amour. Une grande idée qui est dans ce verset ici, d'accord ? En fait, Dieu, dans son être même, les trois personnes de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, sont amour. Tout ce qui caractérise les liens à l'intérieur de Dieu lui-même, dans la personne même de Dieu, entre les personnes de la Trinité, est marqué par l'amour, empreint de l'amour. On lit dans Jean, chapitre 3, versets 35 à 36, « Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Le Père aime le Fils. Jean, chapitre 5, verset 20, l'évangile de Jean. « Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement, car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. » Vous voyez ce verset, il est en train de nous dire ici encore, le Père aime le Fils. Jean chapitre 17, versets 24 à 16. « Père, c'est Jésus qui est en train de prier au dernier repas qu'il passe avec ses disciples avant de partir vers Jérusalem, vers la croix. Il prie, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. » Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Il parle des disciples qui sont là avec lui. Je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Ok, le Père a aimé le Fils de toute éternité. Dieu le Père aime Dieu le Fils d'un amour éternel. Et de même aussi, on trouve plein de versets dans la Bible, et j'en cite encore juste un ou deux ici. Le Fils aime le Père. De la même manière qu'il est aimé par que le Père aime le Fils. Par exemple, Jean, chapitre 14, verset 31. C'est Jésus qui parle. Il parle « Afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous et partons d'ici. » Et de nouveau, c'est au dernier repas, au moment où il est en train d'aller vers la croix. C'est les derniers instants avant qu'il donne sa vie sur la croix pour nous. Il fait ça afin que le monde sache que j'aime le Père. Ça, c'est le Fils qui parle. Il en est de même pour Dieu le Saint-Esprit, vis-à-vis des deux autres personnes de la Trinité. Mais je ne veux pas prendre plus de temps ici maintenant pour ça. Je voudrais juste préciser une chose. Okay, Dieu est amour en lui-même. D'accord ? Dieu est amour, c'est ce qu'affirme l'Écriture, mais elle n'affirme pas que cela. Et donc, il faut qu'on se garde de penser que l'affirmation « Dieu est amour » résume toute la vérité biblique concernant Dieu. Il y a aussi d'autres affirmations de la Bible. Par exemple, « Dieu est lumière » Paul aussi nous a un peu rappelé ça. Dieu est lumière, il est saint, il est pur, il est entièrement juste, il ne tolère pas le mal, il aime ce qui est bien, mais il déteste ce qui est mal. Il n'est pas tordu, il n'est pas sournois, il est franc, il est vrai, il ne magouille pas, il ne fait pas des transactions ou du commerce. Voilà aussi qu'est-ce qui caractérise Dieu. Donc ce n'est pas un amour sentimental et peut-être versatile, car Dieu ne change pas. Mais c'est un amour constant, qui hait le mal, mais qui aime faire le bien, qui aime donner ce qui est bien à l'objet de son amour. De la même manière qu'un papa qui refuse à son enfant de ne manger, par exemple, que des bonbons ou des gâteaux au repas, parce qu'il sait que c'est pas bon, au final, pour son enfant, n'est-ce pas ? De la même manière, Dieu aime de façon véritable, de façon authentique. Et ce que je voulais faire en commençant par vous rappeler ces paroles de l'Écriture, c'est vous montrer ce que cela signifie quand on dit « Dieu est amour ». Ça veut dire « Dieu est amour en lui-même ». Il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour aimer. Vous réalisez ça ? Il n'a pas eu besoin de nous créer, par exemple, pour aimer, pour devenir amour, si vous voulez. De toute éternité, il est amour. Et donc, quand il a créé le monde, quand il a créé l'humanité, puisqu'on est au premier chef concerné, c'était une expression de son amour. Comme si vous voyez le disque solaire, il y a des éruptions solaires. Vous avez peut-être déjà vu ça. Donc, il y a le soleil qui est là, et puis il y a de l'énergie, il y a une sortie de cette énergie, de cette lueur dans l'univers. Et bien, la création, c'est ça. C'est Dieu qui exprime un acte d'amour, la création en particulier de l'homme, de la femme, de l'humanité. Donc notre création est une expression de son amour et non pas la condition de l'amour de Dieu. Et il y a une grande différence. Est-ce que vous comprenez ce que j'essaye de faire ici ? Je voudrais vous amener à réaliser la grandeur, la majesté de Dieu. On devrait être dans l'émerveillement, un émerveillement mêlé de crainte en réalisant cela. Ça devrait nous pousser à nous décentrer de nous-mêmes pour regarder à notre Créateur avec respect, avec adoration et à contempler la réalité de l'amour, l'amour parfait, l'amour infini, l'amour véritable. Et pour nous, donc, par contre, nous qui sommes des êtres créés par Dieu, l'amour de Dieu, par contre, est la condition pour notre amour envers lui. Si on lit un petit peu plus loin, dans 1 Jean qu'on a déjà lu, cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce que lui, il nous a aimés. Et là, les grands problèmes, n'est-ce pas ? La Bible nous enseigne, nous le voyons quotidiennement dans nos vies, que nous n'aimons pas. N'aimons pas véritablement. Nous n'aimons pas à la hauteur de ce que Dieu attendait de nous quand il nous a fait, quand il nous a créé. Le monde n'est pas caractérisé par l'amour. Est-ce que votre vie, est-ce que ma vie, on peut l'affirmer, est véritablement, authentiquement caractérisée par l'amour dans tout ce qu'on dit, dans tout ce qu'on fait? Même avec notre meilleure volonté, nous ne pouvons pas aimer une journée sans faille. Il n'en était pas ainsi quand Dieu nous a créés. Rappelez-vous, le premier homme, et à sa suite toute l'humanité, nous, vous, moi, a décidé de se détourner de l'amour de Dieu en cherchant l'autonomie par rapport à Dieu, ce que la Bible appelle le péché. Et depuis lors, personne, naturellement, n'aime à la hauteur que Dieu attend de ses enfants, de ses créatures. Le cœur de l'homme n'est plus capable d'amour véritable, à la hauteur de celui pour lequel Dieu nous a créés, parce qu'on est déconnecté de ce Dieu-là, parce que volontairement, on a détourné nos regards de cet amour pour essayer de le redéfinir à notre manière. Et Dieu est lumière. Et cela apparaît en pleine lumière que nous n'aimons pas quand nous nous retrouvons devant Dieu. Qu'est-ce que c'est exactement l'amour? Je voudrais qu'on réfléchisse un peu à une définition de l'amour. Qu'est-ce qui caractérise l'amour? Et je vous propose ceci, aimer, pour essayer de nous raccrocher à comment Dieu nous attend là. Aimer, c'est choisir de faire tout ce qui est nécessaire, quel que soit le prix que cela va impliquer pour soi-même. Et de faire ça pour le bien de l'autre, pour manifester de la bonté envers l'autre. Quelques exemples dans la vie courante. Par exemple, tu éteins la télé, ou tu te déconnectes d'Internet, de tes emails et de toutes ces choses-là, pour prendre du temps avec ta femme, pour juste parler avec elle, ou pour faire un service dans la maison, pour la famille, pour jouer avec ton enfant, pour lui accorder un temps de qualité. Tu as renoncé à quelque chose pour le donner à l'autre, pour donner quelque chose de précieux, ton temps, ton énergie, ton amour, ton affection. Par exemple, ça peut être renoncer à une sortie ou à la joie légitime de pouvoir rester confortablement chez soi pour, au contraire, aller faire, par exemple, des travaux chez quelqu'un qui en a besoin ou pour garder les enfants d'un couple, peut-être dans l'église, qui en aurait besoin. Peut-être c'est apporter les repas pendant une semaine à une maman qui sort de la maternité pour l'aider à trouver son rythme avec l'enfant qui vient d'arriver. Donc c'est mettre des choses qui nous sont précieuses, du temps, de l'énergie, pour le bien de l'autre. Et c'est donner ça sacrificiellement, ça va coûter, il faut prendre la voiture, il faut préparer le repas, il faut réorganiser sa vie pour faire de la place à l'autre. Et d'ailleurs, et mes exemples sont peut-être pas tout à fait justes, mais ce n'est pas que renoncer à des choses superficielles et juste de confort. Le vrai amour, c'est plus que cela, n'est-ce pas? Que ferais-tu si ta femme, ou ton père, ou ta mère, ou un de tes enfants, parti en voyage à l'autre bout de la planète, se trouve malade, peut-être au point de mourir, le pronostic vital est engagé, tu reçois le coup de fil que tu redoutais. Et monsieur, désolé, votre enfant, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer, on voulait vous prévenir. Qu'est-ce que tu fais? Mais tu quittes ton boulot, n'est-ce pas? Si tu aimes vraiment ton père, ta mère, ton enfant, ta femme, tu quittes ton boulot, tu vides ton compte en banque, tu cherches le premier billet que tu peux trouver et tu cours, même si c'est à l'autre bout de la planète, peu importe les conséquences, peu importe si tu es viré de ton travail, peu importe s'il ne reste plus rien à la fin du mois, il faut que tu ailles au plus vite près de cette personne que tu aimes, cette personne chérie, pour manifester cet amour, n'est-ce pas? Et sans perdre un instant, tu te rends dans un contexte inconnu pour rejoindre la personne que tu aimes. Quand on dit que Dieu est amour, voilà ce que cela signifie. C'est Dieu qui choisit de faire tout ce qui est nécessaire. Pas tous sont possibles, car pour Dieu rien n'est impossible. Ça nous a été rappelé dans une prière tout à l'heure. Et gloire à Dieu pour ça. Donc il y a des ressources immenses à la disposition de Dieu. Et Dieu fait tout ce qui est nécessaire, quel qu'en soit le prix pour lui. Donc de façon sacrificielle, le grand Dieu, le Dieu que j'ai essayé de dépeindre devant vos yeux, le Dieu créateur de l'univers, donne de lui-même, sacrificiellement, pour le bien de ceux qui sont l'objet de son amour. C'est un acte libre de Dieu. Dieu n'est pas contraint de faire ça. Je voudrais vous lire ce verset-là, un peu effrayant dans un sens, dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Car, dit Pierre, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, ok, donc Dieu a vu les anges, il y a des anges, des êtres célestes créés par Dieu qui ont aussi décidé de se rebeller contre Dieu, de suivre Satan, le chef, leur chef, dans leur rébellion contre Dieu. Et Dieu a décidé de les précipiter dans les abîmes de ténèbres et il les réserve pour le jugement. Point final. Écoutez la suite. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, c'est cette terre ici, d'accord? Mais s'il a sauvé 8 personnes, dont Noé, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir. S'il a délivré Lot le juste, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dérèglement, car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Voyez la différence par rapport aux anges ici ? Il y a un châtiment, il y a des impies qui sont réservés pour le jugement, mais Dieu sauve des êtres humains. Vous voyez ce schéma qui est différent pour les anges ? Et verset 9, la conclusion de ceci, « Le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. » Voyez comment le schéma revient, comment il met en lumière la manière dont Dieu agit de manière libre avec les humains. Dieu n'a pas sauvé les anges qui se sont rebellés, ni même certains d'entre eux, alors qu'il a choisi de sauver parmi les hommes rebelles un certain nombre de personnes, afin qu'elles échappent à la juste condamnation qui leur revenait. D'accord ? Dieu n'est pas en train de faire quelque chose d'injuste en faisant ça. Comprenez la chose importante que la Bible nous dit ici. Dieu n'était pas obligé de sauver des hommes. Il pouvait les laisser aller à leur dérèglement. Ils avaient choisi volontairement de se détourner de lui. Dieu n'était pas obligé de remédier à cela. Les termes de l'alliance avaient été clairs dans le jardin d'Éden. Si vous vous détournez de moi, vous pouvez lire ça dans Genèse 3, je reformule ici avec mes mots. Si vous vous détournez de moi, vous mourrez, dit Dieu. Si vous cherchez à sortir de la relation avec moi, dit Dieu, à vivre sans tenir compte de moi et de ma parole, si vous prétendez redéfinir à votre manière la réalité selon vos critères, vous mourrez. Dieu avait été très clair avec ça. Et donc la juste condamnation des pécheurs, de ceux qui sont dans cette attitude de rébellion, c'est la mort. C'est un salaire en fait, un juste salaire. C'est la juste rétribution, le juste retour des choses. Un patron qui donne son salaire à la fin du mois à son employé, c'est pas de l'amour. Un papa qui donne un billet de 10 euros à son garçon, comme ça, d'accord ? Pas en échange d'un service, mais juste pour, voilà, pour que tu saches que je t'aime, pour t'encourager. Ça, c'est de l'amour. Un homme qui serre sa femme dans ses bras pour lui dire « Tu sais, je t'aime. Rappelle-toi, je t'ai choisi parmi toutes les autres femmes de la planète. Et je veux tenir ma promesse de t'aimer jusqu'au bout, jusqu'à la mort, jusqu'à que la mort nous sépare. » D'accord ? Comme ça, gratuitement. Ça, c'est l'amour, n'est-ce pas ? Écoutez ce verset de Romains, chapitre 6, verset 23. « Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. » En Jésus-Christ, notre Seigneur. Dieu est libre de sauver ceux qu'il a choisis. Et c'est là une marque de son amour incroyable. Ce qui devait arriver à moi, à tous ceux qui ont fait l'expérience de cet amour de Dieu, la juste chose qui devait nous arriver, c'était de continuer tout droit dans une direction pour aboutir loin de Dieu. Mais Dieu manifeste sa grâce. Et plusieurs ici ce matin ont fait cette expérience-là. Et ce que je prie, c'est que tous qui nous sommes ici ce matin, on fasse cette expérience de réaliser Dieu m'appelle. Dieu manifeste son amour pour moi, personnellement. Et il veut manifester le don gratuit de la vie en Jésus-Christ pour moi. L'amour, c'est un acte libre, un acte choisi, un acte volontaire. Et c'est un acte sacrificiel, dans lequel on donne ce qu'on a de plus précieux. J'essaie de réfléchir, et pour moi, c'est là que je vois ça le plus fortement. C'est dans le mariage, n'est-ce pas, que la manifestation de l'amour, par exemple, entre un homme et une femme, une vie entière vécue pour donner à l'autre ce qu'on a de plus précieux, en réalité sa propre vie. Et cette démarche-là, elle trouve son aboutissement, son expression dans la relation intime même, où on donne à l'autre ce qu'on a de plus précieux, soi-même, de plus personnel, de plus cher, de plus, où personne n'a jamais été ça, on l'ouvre pour le donner à l'autre. C'est magnifique, Et Dieu a conçu et planifié le mariage seulement pour n'être qu'un reflet de la manière dont lui aime l'Église, dont lui aime ceux qu'il a choisis de toute éternité pour les racheter, pour les pardonner, pour faire qu'ils soient son peuple. Et ça a coûté à Jésus-Christ, à Dieu. Dieu a donné. Dieu a donné son Fils unique. Vous connaissez ce verset, Jean 3,16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le Fils lui-même a accepté, était volontaire pour donner sa vie. Jean chapitre 10, verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Et c'est donc, à la croix que nous voyons ultimement qu'est-ce que c'est l'amour de Dieu. Chapitre 5 de Romains. Un amour qui serait défini ainsi, tellement beau, mais qui ne serait pas concrétisé, quelle perte, quel gâchis, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le cas pour nous. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu prouve son amour, d'accord ? Si on cherche l'amour, regardez à la croix, regardez à Jésus-Christ, et vous allez voir comment Dieu manifeste, comment Dieu prouve son amour. C'est un acte manifeste, historique, objectif. On ne peut pas trouver, en fait, une telle preuve d'amour aussi forte dans la vie courante. Peut-être que quelqu'un aurait le courage de donner sa vie pour un homme juste, quelqu'un qui l'apprécie, pour un membre de sa famille. Mais pour un moins que rien, pour un inconnu, pour un méchant, même pire que ça, pour un ennemi, quelqu'un qui s'est déclaré ouvertement contre vous, est-ce que vous donneriez votre vie ? Or Dieu lui a prouvé à quel point il aime, parce que Christ est mort pour des impies, c'est-à-dire des rebelles, des gens qui avaient méprisé son amour, qui s'étaient déclarés « Je suis hostile à toi, Dieu. Je ne veux pas de toi dans ma vie. » C'est ça que fait le péché. Imaginez la personne la plus détestable, la plus souillée, la plus crade, la plus puante à vos yeux, la moins digne de respect. Essayez d'imaginer une telle personne, si c'est possible. Et toutes les fibres de votre être se hérissent rien qu'à la pensée de cette personne, en imaginant son nom, ou en commençant à discerner les traits de son visage. Et c'est ce qu'on était devant Dieu. Derrière les façades de religion, de gentillesse, dont c'est vrai, on est quand même capable, nous sommes morts spirituellement, affirme la Bible, puants de la mort. Et je voudrais prendre encore quelques minutes maintenant, alors, pour vous montrer, pour essayer de dépeindre devant vous, mais je compte surtout sur l'Esprit de Dieu, qu'il utilise mes paroles maintenant, pour que dans vos cœurs, ce soit quelque chose qui est réel, que vous puissiez vous représenter, que l'Esprit vous transporte à la croix, et moi aussi, pour voir comment Dieu a manifesté son amour, en quoi a consisté cet acte. C'est quoi cette expiation ? On lit dans le verset, Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'expiation, c'est quand on ôte quelque chose. Justement, quand on ôte toute cette souillure, toute cette saleté, toute cette mort spirituelle, pour laver, pour que ça sente bon, pour qu'il y ait la vie et la lumière à la place. Jésus a fait ça pour des pécheurs. Il a accepté de le faire par amour pour des pécheurs. Comment a-t-il aimé des pécheurs qu'il ne méritait pas, mais qu'il a voulu sauver ? il y a deux ou trois idées que je voudrais faire ici. D'abord, Jésus-Christ, le Fils aimé de Dieu, qui était dans cette intimité tellement forte, comme j'ai essayé de le décrire au début de ma prédication, d'accord ? Le Père aime le Fils aime le Père d'une manière infinie, d'une manière totale, d'une manière totalement vraie. Ce Fils-là, Jésus-Christ, a accepté de laisser la position qu'il avait auprès du Père, de toute éternité, dans la gloire, pour s'humilier, se faire homme, s'identifier à notre condition, à nous, être créé. Et non seulement un homme, mais un homme obéissant. Obéissant jusqu'à la mort sur la croix, à notre place, pour nous. Jésus est venu vivre une vie juste, parfaitement en phase, parfaitement en accord avec Dieu. Il a vécu exactement comme Dieu voulait que les hommes et les femmes vivent. Il est le modèle parfait, le nouvel Adam, si on peut dire comme ça. Et il a accepté de vivre ça alors que tous autour de lui le méprisaient parce qu'il était en train de vivre cela, parce qu'il était en train de décider d'obéir quoi qu'il en coûte, même quand tout autour de lui la tension se faisait, arrête de parler comme ça, tais-toi, tu es un fils du diable en fait, et qu'il était méprisé, rejeté. Et tout cela le conduit à la croix. Et 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21, nous lisons ceci. Ultimement, voilà ce qui arrive. Celui qui n'a pas connu le péché, c'est-à-dire Jésus-Christ, dont je viens de vous dire, il a vécu une vie parfaite avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu, l'a fait devenir péché pour nous. Celui qui n'a pas connu le péché, d'accord ? Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Christ, en accord avec Dieu le Père, a assumé de prendre sur lui le péché d'abord. Il s'est chargé de nos péchés, de nos fautes, de nos maladies, nous dit Ésaïe 53. Lui l'innocent, lui qui avait toujours regardé avec horreur le péché, qui face à la tentation, se détourner pour ne pas désobéir à Dieu, pour ne pas faire ce qui déplaît à Dieu, pour rester dans cette relation d'amour parfaite, intime avec son Père. Cet homme-là, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a accepté de s'identifier avec nous qui étions pécheurs. Et quand il est sur la croix, tous les péchés du monde, mes péchés, passé, présent, futur. Tes péchés, passé, présent, futur, si tu appartiens à Christ, ont été déversés sur lui à la croix. Et pendant plusieurs heures de son agonie, dans les ténèbres, Christ est en train d'être souillé par tous mes péchés. Jusqu'au point de rendre sa vie, de donner sa vie, de mourir à cause de ça. Et après avoir été chargé de tous les péchés, il est mort selon la juste condamnation qui devait tomber normalement sur nous. Rappelez-vous, le salaire du péché, c'est la mort, mais Christ a assumé cela. Il a assumé la responsabilité des péchés à notre place. Et il a assumé la conséquence des péchés à notre place. Il a été jusqu'à donner sa vie. Il n'est pas resté quelques heures et puis il a dit, c'est trop, maintenant c'est bon, c'est suffisant. Il a été jusqu'à réellement mourir. Il a pris sur lui les souffrances physiques, les maladies, qui étaient la conséquence de l'entrée du péché dans le monde. Nos handicaps, toutes sortes de maladies, toutes sortes de détresses psychiques, il les a prises à la croix. Et elles ont été jugées aussi à la croix. La croix était un instrument de torture terrible. Il a souffert moralement quand il a vu tous ceux qui étaient au pied de la croix en train de se moquer. Mais il a dit qu'il était le Fils de Dieu, mais qu'il se sauve lui-même. Quel manque d'amour dans ces paroles. Quelle ironie malheureuse. Parce que c'est justement ça que Dieu était en train de faire, que Jésus-Christ était en train de faire. Il était en train de nous sauver. Et par amour, il acceptait de rester cloué sur cette croix. Il aurait pu descendre, écraser d'une parole tous ceux qui étaient là autour de, en train de se moquer de lui, et toute l'humanité pécheresse. Mais il a accepté de rester cloué sur la croix. Par amour, justement pour nous sauver. Pour que la condamnation qui devait tomber sur nous, elle ne tombe justement pas sur nous, mais que ce soit lui qui la porte à notre place. Et encore une autre et dernière chose que Jésus a accepté de faire à la croix pour nous. Il a accepté d'être abandonné du Père. On l'a lu vendredi. Avant de remettre son esprit à Dieu, Jésus-Christ s'est écrié « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lui qui était aimé de toute éternité, parce que Dieu ne pouvait pas tolérer le péché qui était en train de mettre sur lui, a été abandonné, laissé. Pas indéfiniment. Et quand Christ dit ça, il est en train juste de ressentir de manière tout à fait forte qu'est-ce que ça veut dire quand on est pécheur et séparé de Dieu. Il est en train de crier « Ne tarde pas dans cet abandon à venir me sauver. » Christ a accepté cela, de donner tout cela, de faire tout cela par amour pour nous. Et si on lit la fin de 2 Corinthiens 5, « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Et il se passe ceci à la croix. Quand Christ est en train de prendre tout le péché et la juste condamnation qui devait tomber sur nous, il était en train aussi de donner cette justice parfaite à tous ceux qui mettraient leur confiance en lui ce jour-là et pour toute la suite. Et donc il y a un échange. Notre péché est mis au compte de Jésus. Et la justice parfaite qui était au compte de Jésus peut être mise à ton compte maintenant si tu fais confiance à ce sacrifice de Jésus, à cet amour que Dieu a eu pour toi. Je voudrais juste conclure. Si on a compris ça, si l'Esprit est en train de parler à ton cœur, quelle réponse est-ce qu'on doit avoir? La réponse n'est pas une liste de choses à faire, ce serait ridicule. En fait, il n'y a qu'une seule réponse appropriée à cela. C'est une confiance, c'est la foi, c'est de dire « je crois ça ». Je crois que si Dieu dit que je peux être justifié de cette manière-là, alors c'est que c'est vrai. Je crois que si Dieu a dit que de cette manière, son amour est manifesté pour moi, je crois que c'est vrai. Pour moi-même, personnellement. Et en faisant ça, on ne peut pas venir alors en disant « ben, alors, je ne tiens pas compte de cet amour, je peux continuer à vivre, je n'ai pas besoin de changer, je n'ai pas besoin même de demander pardon puisque Dieu aime, voilà. » Ça implique aussi qu'on se détourne, ça implique qu'on reconnaît qu'on n'était pas à la hauteur de ça. Vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas dire « je désire ça » sans renoncer, sans accepter que nous avions besoin de ça. D'accord? Et donc, je voudrais vous dire ce matin qu'une réponse appropriée à cela, à cet amour révélé à la croix pour nous, c'est de reconnaître devant Dieu, c'est vrai, je suis souillé, je suis pécheur, je n'ai pas aimé à la hauteur que toi tu avais voulu que j'aime. Je ne t'ai pas aimé toi en premier Dieu, à la manière dont j'aurais dû t'aimer. Je n'ai pas aimé les autres à la manière dont j'aurais dû aimer. Et pour ça, je te demande pardon. Et avec ça, regarder à Jésus-Christ et te dire « Mais je crois que Christ a bien voulu, pour moi, pour toutes ces choses-là que je vois maintenant dans ma vie, accepter de prendre ces péchés-là. La juste condamnation est tombée sur lui. Et maintenant, je veux vivre de sa vie nouvelle en moi. 1 Jean chapitre 4, verset 19, un peu plus loin que le passage qu'on a lu. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est la seule réponse qu'on peut avoir. Si Dieu ne t'a pas montré son amour, tu ne peux pas l'aimer véritablement en retour. Donc, la réponse appropriée n'est pas une liste de choses à faire, mais c'est juste de rentrer dans une relation avec Dieu maintenant. D'aimer Dieu, de vouloir le bien de Dieu, de vouloir faire ce qui est bon devant Dieu. Et de quelle manière, avec quelle intensité ? Eh bien, écoutez ces paroles de Jésus. Jésus dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Pour les chrétiens, ce qu'il faut croire, c'est ce que Christ a fait à la croix pour nous. Et la manière de vivre, alors, en retour de ça, c'est la gratitude, c'est l'amour en retour. Il faut croire à l'amour de Dieu pour nous et il faut en retour aimer Dieu. Et si on a vécu ça, alors on est libre. On est libre, on est capable maintenant d'aimer Dieu vraiment. Alors je voudrais m'adresser à ceux qui sont chrétiens peut-être pour un certain temps déjà maintenant, qui ont compris ces choses. Puisque tu es libre, ce que tu fais de ta liberté montre justement à quel point tu aimes Dieu. Et si ta liberté est un prétexte pour ne pas faire ce que Dieu attend de toi, alors on peut se demander, est-ce que tu as vraiment connu l'amour de Dieu ? Ton cœur, mon cœur, notre cœur, je parle ici à l'assemblée des chrétiens de Cavaillon, est-il tellement captivé par cet amour que tu as peur même maintenant de blesser l'être que tu aimes le plus au monde, ton Créateur, le Dieu vivant et vrai, devant lequel on vit nos vies, chaque instant, chaque seconde. Si c'est bien lui que tu aimes le plus au monde, plus que ta propre vie. On doit se poser cette question. Et cet amour pour Dieu aussi nous pousse alors à aimer l'autre que Dieu aime aussi, nos frères et nos sœurs dans la foi d'abord, et aussi toute personne, même nos ennemis, nous dit la Bible. Cet amour de Dieu pour nous, nous pousse à aimer l'autre de la même manière que Dieu nous a aimés. Et je voudrais terminer avec ce verset de Jean. C'est à cela que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Prions encore. Seigneur, nous te remercions de ce que tu as prouvé ton amour. Tu l'as manifesté devant le monde entier, devant l'univers entier, devant les puissances célestes comme devant les hommes. Cet amour n'est pas caché, il n'est pas inaccessible. Et ce matin encore, par ta parole, tu as bien voulu nous attirer nos regards à ce que tu as fait à la croix en Jésus-Christ pour manifester cet amour. Seigneur, ma prière, c'est que tu fasses que nous ne méprisions pas cet amour après l'avoir connu ou en l'entendant peut-être pour la première fois d'une manière renouvelée ce matin. Et donc je te prie, Seigneur, que aujourd'hui même, dans ce temps de Pâques, dans les jours qui viennent, tu nous aides à réfléchir à ton amour, à essayer de le saisir, à essayer de le comprendre, à vraiment laisser cet amour pénétrer notre être intérieur profond, pénétrer nos émotions, notre intelligence, diriger nos forces, nos actions d'une manière qui est juste et bonne et vraie, et un vrai amour de retour, de relation avec toi. Prends nos émotions captives, Seigneur, prends nos pensées captives maintenant, pour que nous puissions t'aimer et nous réjouir de l'amour que tu as eu pour nous. C'est dans le nom de Jésus que je t'en prie. Amen.